France Inter, le 18-20, édition spéciale en direct de Rome.
Et comment ne pas vous donner d'abord une image de la place magnifique où nous sommes dans le Rome historique. Nous sommes pile en face du Palais Farnèse. Le Palais Farnèse, c'est l'ambassade de France. Vous comprendrez très vite pourquoi c'est là qu'on a choisi de s'arrêter. Nous sommes près d'une des deux fontaines. Il fait beau, il y a des gens tout autour, des terrasses qui sont ouvertes. On est vraiment ravis d'être là. On marchera un petit peu sur les pavés tout à l'heure, vous allez voir. On ira peut-être, si tout va bien, parce qu'il y a un marché d'habitude, donc si tout a été rangé, on ira du côté du Campo di Fiori qui est juste là pour rencontrer nos invités. On reste en plein air pour cette première heure, pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'on a envie de raconter, pour retrouver dans cette émission spéciale Rome, donc Rome qui est la ville du traité, mais qui est aussi un pays, l'Italie, qui est en train de secouer l'Europe en ce moment, et c'est tout cela donc dont on va parler. Je vous le dis déjà, parce qu'en deuxième heure, tout à l'heure, nous aurons Emma Bonino avec nous, qui est quand même l'une des figures de l'Europe en Italie. On est très heureux de savoir ce qu'elle a à dire aussi sur cette Europe et sur cette Italie qui est un peu chamboulée aujourd'hui. Allez, l'Italie est complexe, l'Europe aussi, mais ça tombe bien. On a 2 heures, tant mieux, bonsoir.
Fabienne Saint-Est, 18-20 spécial.
Et bonsoir Giovanni Orsina.
Bonsoir.
C'est vous le premier invité, merci beaucoup d'être avec nous sur cette merveilleuse place. Merci d'être là debout d'ailleurs, un petit peu en plein vent, mais enfin ça fait du bien, il a fait très chaud cet après-midi. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique italienne. Évidemment, c'est pas innocent, Giovanni Orsina, si on a décidé de s'installer ici, en face du Palais Farnèse. On sait que les relations étaient un peu compliquées entre la France et l'Europe ces derniers temps, mais au fond, plus généralement, c'est entre l'Italie et l'Europe que les relations deviennent de plus en plus compliquées. C'est l'Italie qui fait un pied de nez à l'Europe en ce moment. Est-ce qu'on le dit comme ça?
Bon, oui, il y a une coupure politique parce que l'Italie, c'est le seul pays de l'Europe occidentale qui est, dans ce moment-là, gouverné par des partis soi-disant populistes ou qui ont dit populistes.
Vous n'aimez pas ce terme-là, vous, populiste, vous, l'historien?
C'est un terme, je crois, très générique et maintenant il est utilisé pour des partis très différents et je pense que ça ne me satisfait pas. Pas du tout.
Qu'est-ce que vous diriez, vous? Comment vous les qualifieriez, par exemple? D'abord, est-ce que vous dites que le mouvement 5 étoiles et la Ligue, puisqu'on parlera des deux, est-ce qu'on donne le même nom derrière ces deux mouvements, finalement?
Bon, on peut dire que c'est des partis nouveaux. Ça, la Ligue n'est pas nouveau du tout, mais c'est des partis anti-establishment qui s'opposent à l'establishment européen, même à l'establishment italien. Et je pense que la Ligue, c'est un parti, on peut dire, souverainiste ou nationaliste, pendant que le mouvement 5 étoiles, c'est un parti de proteste qui est en train de changer, de devenir, on ne sait pas véritablement quoi.
Mais est-ce que vous diriez en ce moment que l'Europe est bousculée par Salvini particulièrement, par la Ligue, mais par l'autre aussi au fond? Est-ce qu'à eux deux, ils ont réussi à bouleverser réellement l'Europe, à faire que la conversation a changé?
Oui, la conversation a changé, ça c'est sûr. Le bouleversement politique peut-être, ça dépend des résultats des élections européennes, mais je pense que il y a des questions qui ces nouveaux partis ont posé, pas seulement en Italie, mais surtout en Italie. Et ça a changé, l'agenda, ça a changé on part aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, il y avait un article sur la droite espagnole et même les partis populaires espagnols en train de changer. Et la politique européenne est en train de changer sur ça. Ça peut-être va être un tremblement de terre, ça dépend des résultats européens, mais même s'il n'y a pas de tremblement de terre politique, ça va être, un changement profond du débat public européen.
Quand on regarde les sondages aujourd'hui, y compris les sondages européens qui sont tout neufs d'ailleurs, qu'on a là, on voit que la Ligue est extrêmement haut, en tout cas a fait un bond spectaculaire entre les élections législatives d'il y a à peine un an et aujourd'hui. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les Italiens n'aiment plus l'Europe, en fait? Est-ce que vous diriez ça?
Je ne dirais pas ça. Je dirais que les Italiens aiment l'Europe en théorie et ils demeurent européens en théorie, mais ils n'aiment pas l'Europe en tant comme elle est aujourd'hui. Ça, c'est le véritable problème. Je pense que c'est ça, comme on peut dire, un amant trompé, un amant qui est déçu. Et ça, c'est, je pense, l'attitude des Italiennes envers l'Europe aujourd'hui.
Mais est-ce que, vous disiez qu'on avait changé la conversation, est-ce que la conversation en Italie aujourd'hui, c'est il y a quelque chose qui a dû rater. Donc, recommençons à zéro, réexpliquons. Est-ce que ce débat-là, il a lieu ici en Italie, ou est-ce que vous avez le sentiment que tout ça, à la fois la Ligue et 5 étoiles, l'ont quasiment accaparé et donnent leur propre vision de l'Europe, leur propre vision des choses, sans que les autres, les pro-européens, arrivent vraiment à montrer la leur?
Bon, l'idée, je pense, c'est que le Mouvement 5 étoiles, la Ligue, ils n'ont pas une véritable idée de l'Europe, mais ils donnent une solution aux Italiens. Les Italiens pensent, nous voulons une Europe qui peut nous protéger, mais l'Europe ne nous protège pas. Et si l'Europe ne nous protège pas, la seule protection que nous pouvons avoir, c'est de la nation, c'est de l'État italien. Et ça, c'est l'idée, mais ça n'est pas pour les Italiens une solution idéale. Ça, c'est une, comment on peut dire, la seule solution qui demeure après l'échec de l'Europe.
C'est une question qu'on posera beaucoup au cours de cette émission, mais on parle de cette coalition donc entre la Ligue et 5 étoiles, mais aux élections européennes, ils sont chacun sur une liste séparée. Au fond, sur cette question, qu'est-ce qui les sépare vraiment, tous les deux ?
Bon, la Ligue a une idée, comme je dis, c'est une partie nationaliste, une idée de remporter les pouvoirs de Bruxelles à Rome et de défendre l'État national italien avec plus d'énergie. Pendant que le Mouvement 5 étoiles n'a pas une véritable idée de l'Europe, il a été eurosceptique quelquefois, mais ils n'ont pas une véritable idée de ce que l'Europe doit devenir. Et dans cet endroit-là, les deux partis sont très différents. Et les alliances européennes des deux partis démontrent cette différence. La Ligue entre en alliance avec tous les partis nationalistes européens, pendant que le Mouvement 5 étoiles ne trouve pas de partis européens pour bâtir une alliance véritable.
Le Mouvement 5 étoiles jusqu'à présent était avec Nigel Farage, par exemple, notamment. Alors c'est toujours compliqué de savoir ce qui va se passer avec les Anglais en ce moment. Mais du côté de la Ligue, en revanche, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de mal aussi à trouver des alliés, parce que Salvini a essayé. Mais au fond, même les Hongrois disent des choses très différentes, même les Polonais disent des choses très différentes. C'est compliqué même pour eux, visiblement, de trouver de vraies alliances.
Bon, il faut pas oublier qu'il y a, je pense, 2 ou 3 ans, le Mouvement 5 étoiles est en train d'entrer dans le groupe de l'ALDE, le groupe des libéraux, le groupe le plus européen qu'il y a. La Ligue a trouvé des alliés, mais bien sûr, quand on essaye de bâtir une alliance internationale des nationalistes, il y a une contradiction profonde dans ça. Mais la Ligue a des partenaires européens, bien sûr le Rassemblement national, bien sûr le Parti libéral autrichien, et je pense que même s'ils ne vont pas bâtir un groupement unique avec les Polonaises, il y a la possibilité de faire des choses ensemble avec les Polonaises, même si peut-être les choses de faire ensemble sont des choses négatives.
Et en tout cas, en attendant, la Ligue qui en avait parlé à une période a renoncé visiblement à l'Italexit, comme on dit. Pour l'instant, le discours, c'est pas tant on sort, c'est on essaie de changer l'Europe de l'intérieur.
Bon, ça c'est très clair, mais si je pense que c'est un effet du Brexit. Ces partis-là ne sont plus partis véritablement anti-européens. Ils sont devenus des partis d'une Europe différente. Ils veulent changer l'Europe, ça c'est très clair avec la Ligue.
Et on verra s'ils y parviennent. Vous restez avec nous, évidemment, pendant toute cette première heure. Giovanni, je voudrais qu'on se tourne vers Angélique Boin. Bonsoir, Angélique.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. Merci d'avoir fait le voyage jusque-là.
C'est un plaisir.
Comme à chaque fois.
Vu l'endroit où on se trouve.
Ouais, comme vous dites, ouais, comme à chaque fois. Vous allez nous donner une photo, en fait, de l'Italie, mais aussi des différents pays qu'on traversera tout au long de cette émission. La photo de l'Italie, j'ai envie de dire, à la fois, donc, européenne et allergique à l'Europe.
Oui, rappelons d'abord que c'est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union, avec la France, l'Allemagne et Benelux. Et à ce titre, Rome occupe en fait une place bien particulière au cœur de Bruxelles. Alors il y a toujours un signe qui ne trompe pas, ce sont les postes occupés dans les institutions. Mario Draghi à la tête de la BCE, Antonio Tajani président du Parlement, Federica Mogherini chef de la diplomatie, ils sont tous italiens. Ça, c'est un signal. Voilà. C'est aussi un grand pays, on le rappelle, 3e économie de la zone euro, derrière l'Allemagne et la France. Une grande puissance agricole, industrielle autour de nous, sur les terrasses, le vin italien est partout. On rappelle que c'est le premier producteur mondial de vin. Le luxe, l'automobile, voilà un pays qui exporte partout, mais Et c'est le constat amer en ce moment, c'est le pays malade hein, de l'Union européenne aujourd'hui, malade économiquement. Et puis vu de Bruxelles, politiquement aussi. Malgré des plans d'austérité, qu'on rappelle, entre 2009 et 2013, Rome ne se remet pas, hein, l'Italie de la crise de 2008. Sa dette publique est absolument colossale, 132% du PIB, là où la France, qui est quand même déjà dans le haut du panier, est à 98%. Et ce qui fait dire au commissaire Pierre Moscovici que le pays risque aujourd'hui de déstabiliser toute la zone euro. Rome est donc surveillée comme le lait sur le feu par la Commission. Le projet de budget de la coalition est au cœur d'un bras de fer avec Bruxelles. Hein. Et puis les dernières projections de l'OCDE ne vont pas arranger le climat puisque l'OCDE estime aujourd'hui que l'Italie est en récession. Un dernier chiffre, Fabienne. Vas-y. Ici, un jeune de moins de 25 ans sur trois est au chômage. Hein. 10% de la population active, c'est beaucoup.
Et là aussi, on y reviendra. Et puis on l'évoquait, Angélique, tout à l'heure à l'instant avec Giovanni, la coalition au pouvoir qui bouscule les Européens.
Eh oui, c'est peu de le dire. Hein. Le populiste Matteo Salvini n'a pas mâché ses mots hein, dès son arrivée d'Italie. A fini de courber les Chines et d'obéir à l'Europe, a-t-il dit au sujet des migrants. Alors on va rappeler hein, 700 000 arrivés sur les côtes italiennes depuis 2013. L'été dernier, Salvini ferme les ports. Il renvoie l'Union européenne à ses contradictions. Macron est qualifié d'hypocrite car la France ne partage pas, selon lui, le fardeau des migrations. Alors même si cette année, hein, le nombre d'arrivées de migrants ici est en très forte baisse, 23 000 seulement, j'ai envie de dire, en 2018. Chaque bateau qui fait des ronds dans l'eau au large de l'Italie, ça provoque une véritable crise à Bruxelles. Bruxelles où on rappelle que le travail aux frontières avec Frontex, tout ça, ça avance. Mais on admet aussi que le système de relocalisation des migrants, la réforme du droit d'asile, tout ça, c'est au point mort. L'Italie fâchée avec l'Europe, pas uniquement dans sa tête, hein, puisque aujourd'hui, 45% des Italiens considèrent qu'ils n'ont pas bénéficié de leur appartenance à l'euro. C'est plus que ceux qui considèrent qu'ils ont bénéficié de leur appartenance à l'Europe.
Merci beaucoup, Angélique. On va revenir sur tous ces chiffres avec Giovanni dans un instant. Je voudrais passer le micro à Mathilde Imberti, qui est là juste à côté. Bonsoir, Mathilde.
Bonsoir à tous.
On la connaît, votre voix. Mathilde, vous êtes la correspondante ici à Rome. Je voudrais qu'on y aille un peu sur le terrain. On a démarré cette émission en parlant de cet attelage un peu bizarre et baroque, on va dire, qui est 5 étoiles et la Liga sur le terrain. Donc ça donne quoi, en
fait? Mais écoutez, c'est une alliance curieuse, effectivement, et au fond qui est née par pragmatisme, puisque l'idée c'était d'accéder au pouvoir. Seule la Ligue, seul Mouvement 5 étoiles n'accédait pas au pouvoir. Donc cette alliance, elle est née pour pouvoir gouverner l'Italie. Mais il y a un fossé que ne comble pas cette alliance entre la Ligue et les 5 étoiles, et c'est un fossé notamment sur certaines questions sociétales. Alors vous allez l'entendre, c'est très clair sur le terrain. Moi je me suis rendue dans le Piémont. Le Piémont, c'est la région de Turin. Alors je suis allée dans une ville qui est gérée par les 5 étoiles, une ville qui est gérée par la Ligue. Là-bas dans le Piémont, on va voter aux élections régionales le 26 mai. Et alors les divergences sont très fortes, et pas uniquement sur la question très controversée qu'on connaît bien en France de la ligne grande vitesse Lyon-Turin.
Et on écoute votre reportage, on se retrouve juste après.
Turin, c'était la bonne surprise pour les 5 étoiles au printemps 2016. Chiara Appendino, jeune femme trentenaire, militante du mouvement, raflait le siège de maire. 3 ans plus tard, elle affiche sa fierté.
C'est une ville en pleine effervescence, reconnue pour son industrie et pour sa culture. Et du point de vue des droits, c'est une des villes les plus accueillantes. En ce moment, on débat en Italie de la notion de famille. À Turin, la famille, ce sont les familles. Et nous avons été les premiers à reconnaître les enfants de couples homosexuels. Je vous donne un autre exemple. Nous, les premiers à Turin, avons mis en place une instance de dialogue entre toutes les religions. Turin est reconnu pour cette ouverture, alors que le gouvernement, lui, adopte d'autres positions.
Si sta riconoscendo proprio in questo tratto anche negli ultimi giorni, nonostante posizioni governative diverse.
Allora, adesso lei riprende questo corridoio, va fino al fondo, svolta a sinistra e troverà 2 porte vetrate.
Ok. À Turin, on reconnaît quelques mérites tout de même au gouvernement 5 étoiles Ligue dans une ville qui compte 30% de chômeurs parmi les jeunes et un tissu social déstabilisé par la crise.
Je suis Antonio Laria, conseiller municipal 5 étoiles. Je préside la commission des affaires sociales. En passant au gouvernement, nous avons décroché l'un de nos chevaux de bataille, le revenu minimum. Il guide les personnes bénéficiaires vers une insertion sociale en les aidant à rechercher un travail. Et en même temps, le revenu minimum leur permet de payer leur loyer chaque mois. Elles n'ont plus cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête.
Les 5 étoiles ont fait passer le revenu minimum, la Ligue, l'avancement de l'âge de départ à la retraite. Jusqu'ici, notre interlocuteur turinois était d'accord. Il l'est beaucoup moins sur les mesures autorisant la légitime défense armée face à un cambrioleur ou la politique migratoire du gouvernement.
C'est évident, et en particulier concernant le décret Salvini sur l'immigration. Il rend impossible désormais la délivrance de permis temporaires aux demandeurs d'asile ou aux migrants. La conséquence, c'est que ces gens-là deviennent des sans-papiers, car faute d'accord avec les pays d'origine, ils ne sont de toute façon pas renvoyés chez eux, paradoxalement. Ce décret crée plus de problèmes qu'il n'en résout.
C'est ça le compromis pour arriver au pouvoir.
Oui, c'est sûr, on a même signé un contrat de gouvernement. Mais c'est pour ça qu'on est très remonté sur la question de la ligne Lyon-Turin. S'ils ont pu faire passer le décret Salvini, c'est grâce aux voix des 5 étoiles. Maintenant, il faut qu'il soit correct et qu'il bloque le projet Turin-Lyon, comme c'est écrit dans le contrat.
Ce projet est inutile selon vous ?
Mais oui, absolument. On le dit depuis des années. C'est un projet disproportionné et nous ne céderons pas.
Sortie de la capitale régionale, c'est l'entrée en territoire de la Ligue. La troisième ville du Piémont, Alessandria, se trouve à moins de 100 km de Turin. Elle est tenue, hormis une brève parenthèse au centre-gauche, par le parti de Matteo Salvini depuis les années 90.
Je m'appelle Gianfranco Cutica di Revigliasco et je suis le maire d'Alessandria, 94 000 habitants.
L'arrivée au pouvoir de la Ligue ne bouleverse pas le quotidien de sa ville, a écouté ce maire. Mais il y a au moins un secteur sur lequel il dit percevoir des retombées, la lutte contre l'insécurité.
Je soutiens entièrement le décret Salvini. Il nous offre des outils en plus. Ici, on a le problème des migrants qui demandent de l'argent aux gens pour se garer sur les parkings. Avec ce décret, on peut prendre une mesure d'éloignement. La politique actuelle qui consiste à dire stop à l'immigration clandestine est une politique sage.
C'est au sud de l'Italie, à un bon millier de kilomètres d'Alessandria, que l'on arrête les bateaux de migrants, mais c'est ici qu'on applaudit. Enfin, une politique courageuse, se réjouit Gian Paolo Lumi, adjoint à la mairie d'Alessandria, en charge de la sécurité et militant de la première heure de la Ligue.
Le nombre de débarquements a chuté, de l'ordre de 94% en moins. C'est en soi positif. À la Ligue, on a toujours dit « aidons-les chez eux ». Bien sûr que certains s'intègrent, travaillent et payent leurs impôts. Mais nous sommes contre l'assistanat et le parasitisme qui créent de l'insécurité.
Pour rester sur la sécurité, vous avez toujours soutenu également à Alessandria le droit à la légitime défense qui est désormais inscrit dans la loi.
Cette loi est plus que nécessaire. Dans les cas où, chez vous, vous êtes menacé par une arme, il faut pouvoir réagir.
La Ligue est devenue le premier parti d'Italie. Elle remporte région sur région. Elle est donnée en tête dans le Piémont, où l'on vote le 26 mai. Des élections régionales dominées par un sujet, la ligne grande vitesse entre Turin et Lyon. L'enjeu d'une lutte féroce entre les deux composantes de la majorité. L'avis du maire d'Alessandria.
Bonjour. Un café.
La Lega sostiene la necessità di realizzare.
La Ligue a toujours soutenu la ligne Lyon-Turin.
Che dir si voglia.
Est-ce que vous pensez que c'est une ligne nécessaire?
Io credo proprio di sì, occorrono linee rapide.
Absolument. Il nous faut des lignes modernes, rapides, pour transporter les marchandises et répondre aux esigenze du marché. De toute façon, les appels d'offres ont été lancés. Il est impossible de revenir sur la ligne Turin-Lyon.
Non si torna indietro.
Allez, le reportage, il est signé de vous, Mathilde Imberti. Merci beaucoup. Une question pour vous deux, en fait, Giovanni Ursina aussi. On le voit avec cet exemple de la ligne Turin-Lyon, qui est quand même un vrai bon exemple. Comment ça peut tenir, en fait, cette coalition ? On a l'impression qu'à chaque instant, ça peut craquer, en fait.
Oui, il y a cette impression, mais il y a une force qui tient la coalition ensemble, qui est l'absence d'alternatives. Et les pouvoirs, bien sûr. Et il y a beaucoup de différences entre les deux partis, bien sûr, mais il n'y a pas d'opposition. Et la rue pour, comment on peut dire, avoir une alternative politique, c'est très compliqué. Et maintenant, la seule possibilité pour ces partis, et je pense pour l'Italie, c'est que ce gouvernement va durer. Pour le moment, après les élections européennes, on verra.
Donc vous dites pourvoir, en fait. Puisqu'il n'y a pas d'alternative, on n'a qu'à les laisser gouverner, puis on verra bien.
Oui, absolument. La présence d'une alternative en politique est tout à fait essentielle. S'il n'y a pas d'alternative, la seule possibilité, c'est ces gouvernements-là.
C'est-à-dire qu'à peu près tout a été essayé, en fait. Il y a eu 3 mois et demi de crise politique. C'était la plus longue crise politique, hein, Giovanni. Après les élections, on a essayé de faire d'autres alliances. Le mouvement 5 étoiles est allé voir le Parti démocrate pour lui demander s'il pouvait gouverner ensemble. Le Parti démocrate a dit non. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ça s'est fait, mais après de longues, longues tractations.
Sur quoi, si ça craque, et lorsque ça craquelle, au fond, le vrai point d'achoppement, Giovanni, c'est où, en fait? La grande fragilité, on va dire, de cette coalition, c'est laquelle?
La grande fragilité, c'est le fait que la différence entre les deux partis a un effet électoral. Si la Ligue, dans les élections européennes, va avoir un résultat vraiment important, et si le mouvement 5 étoiles va tomber jusqu'à 20%, il y a un problème sérieux. Parce que ça veut dire que le gouvernement va tuer le mouvement 5 étoiles, et comme tous les partis politiques, le mouvement 5 étoiles va chercher... Une issue de ça.
Mais est-ce que jusque-là, c'est un peu le sentiment qu'on a, vous me direz si je me trompe, on a l'impression pour l'instant que c'est la Ligue qui mange 5 étoiles. Celui dont on parle, c'est Salvini. Est-ce que Luigi Di Maio existe encore sans Salvini, au fond, aujourd'hui?
Je pense qu'il peut exister, mais encore une fois, la force du mouvement 5 étoiles, c'est la faiblesse du Parti démocrate. Si les électeurs du mouvement 5 étoiles ne sont pas contents de mouvement, Ils n'ont pas une véritable alternative. Ils ne peuvent pas voter pour un autre parti. Ils ne vont pas revenir au Parti démocrate.
Ça veut dire qu'ils avalent des couleuvres, comme on dit en français, parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont obtenu de la part de la Ligue, au fond, 5 étoiles? Je pense à ce qu'on appellerait, nous, l'équivalent du RSA, en fait, le revenu de citoyenneté, c'est comme ça qu'on appelle ça ici, qui devait être à très large spectre, qui est finalement beaucoup plus réduit. Au fond, on a l'impression que c'est la Ligue qui donne des miettes à 5 étoiles, ou c'est un peu différent?
Non, ça c'est la vérité. Le problème, c'est que toutes les choses les plus importantes du programme de mouvement 5 étoiles, c'était des choses qui coûtent, comme le revenu de citoyenneté, pendant que la chose la plus importante pour la Ligue, c'est une chose qui ne coûte pas d'argent. Il peut coûter, d'humanité, mais pas d'argent, qui est les migrants. Et ça c'est la raison, parce que Salvini a beaucoup obtenu de ses gouvernements pendant que le mouvement 5 étoiles est en difficulté. Et sa difficulté va durer. Mais quelle est l'alternative pour le mouvement 5 étoiles? L'alternative, c'est de revenir à l'opposition et de chercher de bâtir quelque chose de nouveau avec peut-être les partis démocrates, mais c'est très difficile.
Allez, on va pouvoir les poser toutes ces questions à notre prochain invité. Vous allez nous suivre quelques pas seulement, pas très loin du Palais Farnèse pour le Campo di Fiori, qui est vraiment jusque là. On va le faire en musique, tiens. Et puis Giovanni, je vais vous laisser nous dire qui on va écouter à l'instant.
Vinicio Capossela con una rosa.
Et on est parti. Merci beaucoup. À tout de suite.
Con una rosa hai detto venimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano. Come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma. Come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano. Petalo a petalo mostrano il colore. ma il fiore che da solo cresce nel rom. Rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te.
France Inter, le 18-20, édition spéciale en direct de Rome.
Et oui, de retour ici pour cette édition spéciale à Rome, spéciale européenne. On a un tout petit peu bougé pour tout vous dire. Donc, Campo di Fiori, à côté, pour tout vous raconter, à un moment, ça a été une place de grève. Voilà, je vous le pose là. Et puis voilà, pour retrouver notre prochaine invitée qui s'appelle Emmanuela Del Rey. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et merci beaucoup, merci vraiment d'être ici avec nous. Vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères. J'allais dire votre parti, c'est 5 étoiles, mais au fond, je pense que je me trompe déjà parce qu'on ne dit pas parti. Comment vous qualifiez-vous 5 étoiles? Est-ce que vous dites parti? Est-ce que vous dites mouvement? Vous dites quoi?
Oui, c'est un mouvement, certainement. C'est un mouvement qui a compris les dynamiques globales, qui a eu la possibilité, la capacité d'interpréter les demandes des gens qui n'ont pas une voix. Et alors, je pense que c'est une grande opportunité pour moi, surtout pour mon vie, l'activité que j'avais avant, de m'expliquer et m'exprimer dans cet domaine.
Parce que vous faites partie, vous, il y en a eu beaucoup dans 5 étoiles, des gens qui viennent de la société civile. Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
Oui, j'étais un professeur à l'université.
Vous étiez prof à l'université, ça fait un an que vous êtes lancé en politique et vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères. Ça va extrêmement vite, mais c'est ça, selon vous, le mouvement 5 étoiles, c'est d'être capable de prendre des gens comme vous, sortis de l'université et d'en faire des ministres en l'espace de très peu de temps, d'une année ?
Oui, mais j'avais une grande expérience avant. C'est la raison pour laquelle ils m'ont choisi, parce qu'ils savaient très bien que j'avais une grande expérience dans les terrains, dans les pays de conflit, surtout dans les Balkans, par exemple, le Caucasus, le Moyen-Orient. Et alors, ils m'ont choisi parce qu'ils savaient très bien que je pourrais mettre mon expérience à disposition pour les pays, surtout, mais pour les gens en général.
Alors, Emmanuel Del Rey, comment vous définiriez-vous votre place? Est-ce que vous dites que vous êtes un mouvement de gauche? Est-ce que vous dites que vous êtes un mouvement anti-système? Vous, quand on vous pose la question, vous répondez quoi?
Je vais parler de questions qui sont à mon compétence dans le ministère de l'étranger, et je pense que c'est très important de parler de ça parce que ça c'est la question la plus actuelle, je voudrais dire. Et certainement, peut-être on peut dire que certainement le mouvement 5 étoiles est un mouvement pour l'Europe, c'est un mouvement qui tient beaucoup à le destin du monde, et alors c'est pour ça que je pense que c'est une occasion très importante de participer à la scène politique internationale avec une proposition nouvelle.
Je le vois sur les feuilles que vous avez emmenées, vous avez un chiffre de migrants notamment, vous avez un peu de notes sur la crise migratoire. Moi je voudrais savoir si vous avez le sentiment depuis que vous êtes au pouvoir, que vous appartenez à cette coalition, que sur ces questions-là, vous êtes en phase dans la coalition 5 étoiles et Liga, est-ce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde quand il est question de la question migratoire ?
Je peux dire ce que je dis toujours. J'ai mes opinions et je m'exprime librement comme je veux, et surtout parce que je suis la vice-ministre, mais la vice-ministre en Italie des affaires étrangères est la responsable pour toute la coopération du développement international. Et ça, c'est une position vraiment significative parce que me donne la possibilité d'agir vraiment dans ce domaine de la migration. J'ai toujours dit que pour moi, pour Emmanuela Del Rey, la migration est un phénomène naturel de l'être humain, c'est une aspiration naturelle de l'être humain, et on doit la protéger et créer des opportunités pour les gens de migrer dans la sécurité, et certainement la migration illégale. C'est un phénomène qui doit finir, et nous avons toute la possibilité de mettre en place des instruments différents, des stratégies différentes pour la combattre.
Mais alors quand vous avez un Matteo Salvini qui lui ne veut plus que les bateaux accostent, est-ce qu'à un moment vous dites « ça c'est pas le choix que j'aurais fait moi »
Matteo Salvini, il a toujours dit qu'il n'est pas contre la migration tout court, mais il est contre la migration illégale. Et alors, je suis convaincue que mon domaine d'intervention, la coopération internationale de développement, c'est la meilleure façon d'approcher la question et de la résoudre, de proposer des solutions.
Et est-ce qu'il y a suffisamment de coopération? Donc, est-ce que vous êtes satisfaite des coopérations qui peuvent être faites, et notamment avec la Libye, et notamment avec d'autres pays? Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous avez quand même une pointe de frustration quand, encore une fois, vous voyez que c'est compliqué et qu'il n'y a plus de bateaux aujourd'hui qui accostent en Italie? Si j'ai bien cru comprendre qu'il y avait aussi un refus tout récent là, de bateaux de la marine militaire. C'est très compliqué d'accoster en Italie aujourd'hui. Est-ce que ça vous met à l'aise avec cette histoire de coopération dont vous me parlez?
Oui, la coopération internationale en Italie, je l'ai toujours... descrivez comme la plus importante stratégie de la politique étrangère de l'Italie. Parce que nous avons la possibilité, à travers de la coopération internationale, d'agir vraiment à les racines des questions sociales qui causent la migration. Et je dois dire, peut-être la France ne le savait pas, mais l'Italie est un grand champion à niveau global de la coopération internationale. Et notre tradition, notre intervention sont vraiment importantes et sont quelque chose qui change vraiment les vies des gens, et nous allons faire encore plus de quelles nous avons passé des lois très intéressantes pour potentier, pour rendre plus important, plus incisive la coopération internationale.
Ça veut dire que ça vous heurte quand on dit l'Italie ne fait pas ce qu'il faut avec les migrants, l'Italie ne les laisse pas rentrer. Ça vous heurte dans vos convictions quand vous entendez ça, venu notamment de la France d'ailleurs, mais d'autres pays européens?
Et nous avons une grande stratégie qui pense à la coopération et au développement comme un développement partagé. Nous ne voyons pas les pays qui sont, par exemple, en Afrique comme des bénéficiaires seulement, mais comme des vraiment partenaires qui peuvent contribuer lui-même à le développement de leur pays, par exemple, mais aussi au nôtre développement, parce que nous sommes interconnectés et certainement interdépendants aussi.
Madame la vice-ministre, qu'est-ce qui vous ferait quitter cette coalition, vous, en fait? Est-ce que vous vous êtes fixé une espèce de point qui dit là, je n'y vais pas? Pour l'instant, la coalition, selon moi, fonctionne, mais là, je n'y vais pas. Est-ce que vous vous êtes fixé une limite qui dit là, je ne me sentirai plus à l'aise dans cette coalition ou pas?
Je pense qu'il n'y aura pas cette situation, parce que nous avons une grande constitution, vraiment solide, vraiment importante, la plus belle constitution du monde. Les gens disent, normalement, la constitution italienne et aussi notre législation est vraiment solide encore. Et nous sommes des champions de droits humains aussi, comme Italie. Et alors, je pense que ce niveau n'est pas un problème. Certainement, je peux dire que être dans cette coalition, pour moi, personnellement, est une grande occasion d'offrir mes compétences et mes habiletés pour les mettre au service, pas seulement de l'Italie, mais du monde entier. Parce que avec les affaires étrangères, je suis toujours en contact avec tout le monde, toutes les organisations internationales, tous les pays. Et ça, c'est merveilleux.
J'ai une question subsidiaire pour vous qui nous aidera à aller vers le reportage suivant dans cette édition spéciale. On va parler de tous ces jeunes, notamment, qui quittent l'Italie pour essayer de trouver des opportunités ailleurs. Vous, ici, membre de cette coalition, impliqué dans la politique, quand vous croisez un jeune qui dit « moi, je m'en vais parce que j'ai plus d'opportunités ici, j'arrive pas à trouver une porte de sortie », pour le retenir, qu'est-ce que vous lui dites ?
Je pense que si les gens décident de quitter l'Italie pour un période, pour trouver quelque autre occupation à l'étranger, pour moi, c'est pas un grand problème. La question vraie est que il n'y a pas de confiance dans le futur. Et ça, c'est la question la plus grave dans l'Europe entière, je pense, parce que ça, ce n'est pas seulement un phénomène italien. Et je veux dire qu'il y a des opportunités en Italie, il y a beaucoup d'opportunités pour construire un futur. Certainement, est dur parce que la situation dans l'Europe dans ce moment est compliquée, mais il y a l'opportunité. On doit travailler ensemble pour construire notre futur.
Merci beaucoup. Merci vraiment mille fois d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Je profite de ce que vous dites justement pour avancer un petit peu. Si on regarde cette société italienne aujourd'hui, on voit un vieillissement qui est assez dramatique. On voit un taux de fécondité qui est difficile et on voit, on le disait, beaucoup de jeunes qui décident d'aller tenter leur chance ailleurs. C'est le sens de votre reportage suivant, Mathilde Amerti. On écoute, on se retrouve juste après.
Antonio Sanguinetti porte un double regard sur le phénomène. D'abord parce qu'à 32 ans, il enchaîne toujours les CDD malgré un niveau post-doctorat. Ensuite parce qu'il a lui-même produit une thèse en Allemagne sur ces jeunes Italiens qui abandonnent leur pays. Une génération perdue, décrit le trentenaire.
Lost generation. Si.
Oui, les trentenaires et même quarantenaires vivent dans des conditions détériorées par rapport à la génération précédente. Les petits boulots, la précarité, une protection sociale plus faible, des salaires bas, une génération qui ne s'en sort pas.
Pour s'assurer un avenir, la génération Y part. Carlotta a 26 ans, jamais travaillé en Italie, tout juste fini ses études de management à Rome. Elle s'est envolée pour Amsterdam.
Ici, à Amsterdam, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Kraft Heinz, dans leur centre d'excellence. En Italie, cela aurait été très compliqué de trouver ce job. On vous demande des années d'expérience et on ne valorise pas l'envie d'apprendre ni l'esprit d'entreprise. C'est pour ces raisons que les jeunes comme moi s'en vont. On recherche un marché du travail plus dynamique, plus moderne.
Ou encore Giulia, qui travaille pour une maison de mode italienne et a bien essayé de rentrer au pays. La différence de salaire a fini par la convaincre de rester en France.
Par rapport à mon salaire, si je fais la comparaison entre mon premier salaire en Italie et mon premier salaire en France, on parle à peu près du double. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation qu'on peut avoir dans les universités, les grandes écoles en Italie, c'est du très haut niveau et c'est dommage que ces personnes se sont un petit peu forcées, obligées à partir pour pouvoir trouver des occasions de travail meilleures.
60 000 jeunes Italiens ont quitté leur pays en 2017. Le flux d'émigrés, tout âge confondu, dépasse les 150 000 départs à l'année. Un nouveau cycle d'émigration que décrit le sociologue Enrico Pugliese dans son dernier ouvrage intitulé « Ceux qui s'en vont ».
C'est une nouvelle émigration parce qu'elle a repris dans les années 2010, après une longue pause. C'est la crise qui l'a déclenchée. Le profil type de l'émigré italien, c'est le jeune qui va à l'étranger pour travailler, c'est tout. Il y a une surreprésentation des hauts diplômés qui représente 30% des départs, mais que 30%. Ce qui veut dire que c'est non seulement une fuite des cerveaux, mais une fuite de main-d'œuvre tout court.
Avec un taux de chômage à plus de 30% pour les jeunes, l'Italie a bien du mal à maintenir ses enfants à la maison. Qui s'expatrient où ça? Eh bien, en grande majorité chez les voisins de l'Union européenne.
Et donc, qui s'expatrient, Mathilde, vous le disiez, donc chez les voisins de l'Union européenne. J'ai une question subsidiaire pour vous, Mathilde, avant qu'on arrive à la fin de cette première heure de cette spéciale ici à Rome. Donnez-nous une idée du taux d'abstention aux élections européennes ici
chez
en
les
Italie,
jeunes.
Chez les jeunes et chez les moins jeunes.
Non, chez les jeunes, le taux d'abstention, il était à plus de 50% aux dernières élections européennes. Et a priori, on va rester à peu près dans cette grande tendance-là. Un quart des Italiens, un Italien sur quatre, dit qu'il n'ira pas voter le 26 mai. Et en 2014, de fait, c'était 60% des Italiens qui étaient allés au vote. Donc, vous voyez, il y a beaucoup ici. Il y a un taux d'abstention qui sera assez haut.
Et en même temps, je regarde là autour de nous, et je trouve ça plutôt rassurant au fond pour les pro-européens. Là, il y a un drapeau européen, il y en a un autre un peu derrière. Enfin, il y en a quelques-uns si on se retourne autour de nous. Donc, c'est un hasard ou il y a quand même quelques fervents qui ont affiché leurs couleurs à la fenêtre?
Voilà, il y a un petit effort de militantisme du côté des Européens convaincus pour contrer cette onde, disons, nationaliste. Donc, effectivement, c'est une association qui est née d'ailleurs ici à Rome, qui s'appelle Europa Now, une association de citoyens qui a voulu incarner l'idée européenne et qui a dit, bah, pourquoi pas, finalement, afficher des drapeaux européens un petit peu partout en Italie. Cet appel a été lancé par cette association et puis il a été repris par le président Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne. Et du coup, effectivement, on voit des petits drapeaux ici ou là dans les rues de Rome.
Voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein. on va pas se mentir, non. Comme on dit, mais enfin, quand même, quelques-uns ici et là. Avant de se quitter, Giovanni Orsina, puisqu'il nous reste trois petites minutes, j'ai une question subsidiaire quand même pour vous, parce qu'il y a un homme ici en Italie dont on a énormément parlé et on a l'impression qu'il a complètement disparu, c'est Silvio Berlusconi, qui pourtant est tête de liste pour ces élections européennes. Est-ce qu'il est fini réellement, ce monsieur, ou est-ce qu'il attend dans l'ombre que cette fameuse coalition dont on parle depuis tout à l'heure s'effondre et peut-être à ce moment-là il pourrait ressortir le bout de son nez?
Bon, je vais dire je vais dire quelque chose de très courageux.
Allez-y.
Elle est finie. Ah. Je pense qu'il est fini. Ça c'est là.
Mai dire mai, Giovanni. Non.
Bon, ça c'est bon. Avec Berlusconi, on a dit qu'il était fini plusieurs fois. Et il est très très fort. Il est un homme riche. Il est un homme avec beaucoup de vitalité. Mais maintenant, je pense que la véritable chose est qu'il y a une dauphine. Bon, il n'y a pas une dauphine. Il y a une personne qui l'a déjà remplacé, c'est Salvini. Salvini est le nouveau leader de la droite italienne. Et il n'y a pas véritable espace pour Berlusconi parce que son parti est un partenaire minoritaire de la Ligue. Et Berlusconi ne peut pas être un partenaire minoritaire. Ça veut dire que je pense que Forza Italia va pas quitter Berlusconi.
Mais du coup, on vous entend, il y a du Berlusconi dans Salvini, en fait. Il y a des morceaux de Berlusconi dans Salvini ou pas?
Il y a, je pense, plus que quelques morceaux de Berlusconi dans Salvini. La communication, la simplification de la communication. Et Salvini est, comme on peut dire, un Berlusconi en stéroïde, amplifié dans quelle façon. Et bien sûr, même là, je pense que la politique économique de Salvini, sans le mouvement 5 étoiles, serait très similaire à celle de Berlusconi. Très, très.
Merci beaucoup, Giovanni Orsina.
Merci
vraiment d'avoir passé un peu de temps avec nous. Nous, on se retrouve dans une petite vingtaine de minutes, juste après le journal, juste après ça, surtout. À tout de suite.